la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour chers auditeurs. De nos jours, les politiques publiques ont vocation à produire du sens. Mais en interne, au sein des équipes, nous entendons comme en écho les mêmes expressions. Chacun tire dans son sens. Ça part dans tous les sens, on a perdu le sens du service public. Devant une telle situation en interne, il paraît normal de se questionner sur le bien commun, le sens à développer dans les équipes, en abordant plus précisément la question des valeurs, liées au bien commun, ainsi que des indications à propos de l'autorité. En fait, afin de réaliser les projets sur les territoires, les agents de la fonction publique doivent, en premier lieu, se poser la question « comment construire le nous au sein même de l'équipe ?» Pour en savoir plus sur cette question, j'ai le plaisir de recevoir Madame Virginie Olas. Vous êtes directrice générale des services de Loire-Forez Agglomération dans le département de la Loire. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Virginie, pourriez-vous nous présenter brièvement votre collectivité ?
Oui, alors Loire-Forez Agglomération est issue d'une fusion de 4 intercommunalités en 2017, une agglo et 3 communautés de communes, qui représentent aujourd'hui ce qu'on appelle communément un territoire XXL, qui recouvre à peu près un tiers du département de la Loire, composé de 87 communes, allant de 43 habitants pour la plus petite à 16 000 pour la plus importante, et regroupant 112 000 habitants. Sur ce territoire, l'agglomération intervient pour le cadre de vie de ses habitants, de ses entreprises, avec le développement des mobilités, des compétences très opérationnelles comme l'assainissement, la voirie, les déchets. On a un très important volet sur l'aménagement et le développement du territoire, que ce soit sur les politiques de développement économique, d'emploi, du tourisme, de développement équilibré via notamment tout ce qui est urbanisme et planification. Et on a un volet important aussi de services aux populations, services enfance, jeunesse, contrats de santé, réseaux culturels, équipements sportifs, etc., qui permet à l'agglomération d'avoir un vrai maillage global et d'intervenir sur l'ensemble des communes qui la composent. En matière de gouvernance, Loire-Forez Agglo a mis en place une gouvernance qui est plutôt atypique, parce que c'est une gouvernance qui est extrêmement intégrée avec les 87 communes membres, puisque nous avons certes un conseil communautaire, un bureau communautaire, une conférence des maires, mais aussi un découpage en 6 secteurs. Et chaque secteur est animé par un conseiller territorial délégué. Et tous les mois, on réunit sur une thématique particulière, ou deux thématiques d'ailleurs, en fonction des sujets, l'ensemble des conseillers municipaux des communes. Nous avons 1200 conseillers municipaux en tout. Et ces conseillers municipaux travaillent en atelier, en réflexion, en co-construction des politiques de l'agglomération. Cette gouvernance, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la charte qui est sur le site de la DCF, et elle est très proche de ce que souhaite mettre en place le législateur actuel. Nous avons 130 élus au conseil communautaire et qui sont issus des 87 communes membres de l'agglomération. Et tout cela forme, avec les 400 agents de la collectivité, le cœur de Loire-Forez Agglomération sur son territoire.
Merci donc Virginie. Au regard de votre expérience de directrice générale des services, pouvez-vous nous donner un exemple de politique publique qui vous a permis de créer un consensus au sein des équipes de l'administration de la collectivité ?
Je ne suis DGS que depuis 10 mois dans cette collectivité, mais effectivement j'ai un exemple assez marquant, c'est celui que nous vivons actuellement avec le transfert obligatoire de la compétence eau potable. Au préalable, je voudrais vraiment souligner un particularisme administratif de notre collectivité, c'est que nous travaillons très étroitement avec nos communes membres. Nous avons plus de 300 conventions de mutualisation qui aujourd'hui sont en cours et sont opérationnelles. avec les services de secrétaire de mairie, de tant de directeurs généraux de services qui sont mis à disposition de l'agglo, des services comme de la voirie, de l'assainissement, par exemple. Et cette organisation très intégrée, très imbriquée entre l'agglo et ses communes membres, fait que le consensus que nous devons trouver dans les politiques publiques va au-delà de l'administration propre à Loire-Forêt, qui est une donnée assez particulière. Et donc, si je reprends ce que nous vivons actuellement avec le transfert de la compétence eau potable, qui s'inscrit dans un temps extrêmement contraint, parce que décidé par la loi NOTRe il y a quelques années, ça n'a fait seulement qu'un an que le législateur a posé clairement la date du transfert au 1er janvier 2020. Cela se fait dans un contexte politique initialement un peu compliqué, puisque les élus ne souhaitaient pas forcément transférer cette compétence très particulière. Et avec un territoire comme le nôtre, nous avons des contraintes particulières. C'est aujourd'hui 140 personnes qui travaillent de près ou de loin sur l'eau potable, sur les 47 gestionnaires différents qui sont sur le territoire, soit en régie, soit en DSP, soit dans les syndicats, soit des petits temps de 2-3 heures de certains agents. Et ces 140 personnes ne font en fait que 50 équivalents temps plein. Et donc, depuis plusieurs mois, nous avons mis en place une équipe projet qui au début était extrêmement technique, savoir comment on allait organiser les astreintes, etc., le remplacement des tuyaux, le remplacement, la relève des compteurs. Mais il ne faut pas qu'on reste que sur un volet très technique, parce que cette compétence-là, c'est aussi de la relation à l'usager, de la relation aux élus, et en mise en place de un volet très administratif de cette compétence. Et pour faire en sorte que l'on soit prêt dans des temps très contraints, j'ai mis en place un comité technique qui comprend des agents de Loire-Forêt, des agents des communes membres, des agents des syndicats, en leur disant « Vous êtes la force de proposition pour les élus, pour le comité de pilotage, les conseils municipaux, les comités syndicaux et in fine le conseil communautaire qui aura à prendre des décisions d'organisation de la gestion de la compétence par la communauté d'agglomération au 1er janvier 2020. Et là, il a fallu trouver les clés pour que chacun, avec sa conception organisationnelle, pratico-pratique de la gestion de la compétence, puisse prendre de la hauteur, se mettre en exergue pour pouvoir comprendre les contraintes, les visions des uns et des autres, pour pouvoir proposer quelque chose qui s'applique à l'ensemble du territoire, tout en prenant compte des particularités. Le consensus a été de dire: on a besoin de répartir les bras et les cerveaux qu'on a sur le territoire aujourd'hui.
Merci Virginie pour cette explication assez précise. D'après vous, quels sont les points de vigilance à avoir quand le consensus se crée dans un groupe tel que vous nous l'avez décrit ?
Il y a un préalable, c'est l'expression de chacun. Il faut que tous les membres du groupe, parce qu'on crée un groupe, donc on désigne les personnes du groupe, il faut que chacun puisse s'exprimer librement. Ça veut dire que chacun écoute l'autre sans jugement, avec bienveillance et librement. Ça, c'est le préalable. Ça signifie aussi, et ça, c'est le rôle de l'animateur du groupe, parce que tous les groupes ont un animateur, c'est que l'animateur du groupe ne doit pas donner prise aux empêcheurs de tourner en rond. Dans tous les groupes, vous avez des gens qui, par principe, par dogmatisme, ou par nature, vont être des éléments négatifs. Alors, il y a ceux qui sont interrogeants, et cela il faut bien évidemment les inclure parce qu'ils permettent de faire avancer le groupe, mais ceux qui sont toujours dans le déni, toujours dans la critique négative, il faut trouver les moyens de les neutraliser, voire de les exclure du groupe, en expliquant au groupe pourquoi telle personne, finalement, n'a plus sa place au sein de l'équipe, ce qui n'est pas facile. Le deuxième point aussi de vigilance, c'est la clarté de la décision qui est prise. Parce que le groupe travaille sur une politique publique, fait des propositions, et il y a un moment, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise sur, moi, si je reprends l'exemple que je viens de vous expliquer, l'organisation que l'on met en place. Le consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Hein. Le consensus, c'est ce qui est le meilleur dénominateur commun de l'ensemble des propositions. Et donc, il faut que la décision soit prise à un moment de dire, voilà ce qu'on va présenter, voilà ce qu'on met en place. Et il faut que cette décision soit prise de façon claire, écrite. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'à un moment, il y ait un écrit, une trace qui soit faite. Donc, ça, il faut prendre le temps de le faire. Et en disant que tout peut évoluer dans le temps, toute décision, voilà, et que le groupe qui a trouvé ce consensus, on va pouvoir ensuite, à l'épreuve du temps, évaluer la décision qui a été prise, et s'il faut reconstituer le groupe ou se réunir au bout d'un moment en disant bah, on peut amender, améliorer, ou finalement tout fonctionne bien, il faut donner aussi cette perspective-là. Sinon, le consensus, la prochaine fois que vous allez réunir une équipe pour trouver ça, vous l'aurez beaucoup plus dit. Donc, expression de chaque, expression écoute de chacun, clarté dans la décision prise et neutralisation des empêcheurs de tourner en rond. Voilà les trois points de vigilance sur lesquels je suis particulièrement attentive.
Merci. Et vous avez abordé, Virginie, tout à l'heure, la question des élus. Donc, tournons-nous vers les élus, si vous le voulez bien. Lorsque le consensus se crée grâce aux équipes et aux différents comités que vous avez pu mettre en place, comment les élus s'emparent-ils de cette dynamique ?
Les élus à Loire-Forêt sont très impliqués dans les politiques publiques qu'ils portent, soit parce qu'ils sont membres du bureau, soit parce qu'on a un nombre assez important de comités de pilotage, de groupes de travail ou les réunions de secteur que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, il est indispensable pour que les élus s'emparent d'une dynamique, s'emparent aussi d'un aspect de ce qu'on propose, qui est proposé et qui a fait consensus dans une équipe, c'est la confiance. Tout est basé sur la confiance entre l'élu et les équipes ou les représentants des élus. Et si je reprends l'exemple de l'eau, l'organisation qu'on a proposée aux élus, elle était aussi en corrélation et en cohérence avec l'organisation politique que les élus ont souhaité. Donc la proposition du groupe, qui était consensuelle, a fait consensus aussi auprès des élus, parce qu'il y a eu un travail en amont. Et si les élus sentent que les équipes sont flottantes, eux-mêmes seront flottants.
Virginie, notre émission touche à sa fin. Quels conseils aimeriez-vous partager avec nos auditeurs ?
Donner du sens, pour répondre à votre question. On en parle beaucoup. Il y a énormément de littérature dans la matière. Le faire concrètement, au quotidien, n'est pas si simple que ça. Parce que nous-mêmes, en tant que cadres dirigeants territoriaux, on n'a pas toujours le sens qui soit politique, qui soit législatif, qui soit des actions qui nous sont demandées pour décliner des politiques publiques. Et si nous-mêmes nous n'avons pas le sens des choses, on ne peut pas transmettre à nos équipes l'objectif de ce qu'on leur demande, et ça devient une réalisation très un peu robot. Et donc c'est vraiment ça, c'est donner du sens à l'action de la politique publique au quotidien pour nos collaborateurs. C'est ce à quoi je m'emploie à peu près tous les jours avec les équipes. J'ai la chance de diriger aujourd'hui. J'ai connu dans mon passé des directeurs généraux qui ne donnaient pas forcément le sens et du coup ça crée une opacité, ça crée une défiance qui fait qu'on est à la fois pas efficace dans son activité professionnelle, mais en plus on s'interdit d'avoir des idées, d'avoir des propositions. Et une collectivité, une organisation ne peut avancer que si elle a un mouvement permanent et qu'il y a des émanations, des émissions des équipes pour pouvoir adapter en permanence les politiques que nous déclinons à destination de nos populations. C'est le conseil que je souhaiterais partager avec l'ensemble de vos auditeurs.
Merci beaucoup Virginie de votre témoignage et le regard porté sur la question comment construire le nous au sein de l'équipe. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directrice générale des services de Loire-Forez, agglomération dans le département de la Loire. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.